chronique du dessin, représenter la ville. Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle représentation de la ville aujourd'hui avec Greenwich Village de Frank Biancarelli et Lewis Trondheim. Tout commence donc par un jeu de mots, puisque Greenwich Village, c'est un quartier de New York, un quartier alternatif qui n'a pas subi la géométrisation des autres quartiers, donc on n'a pas ces rues à angle droit qui marquent la ville de New York. Et donc, on a un quartier qui est devenu au premier plan des avant-gardes. Il y a un esprit de rébellion. Marcel Duchamp a participé à un lâcher de ballon pour proclamer la fondation de la République indépendante de Greenwich Village. La fiction derrière le jeu de mots, puisque le titre est bien Greenwich Village, witch étant la sorcière. Et en couverture, devant cette rue de New York, nous avons une sorcière en costume vert qui ressort au premier plan. Alors le récit. Elle vit en 2025, mais elle s'est réveillée dans le corps d'une jeune libraire new-yorkaise en 1959. Elle a oublié son nom, mais elle finit par se faire à celui qu'elle a emprunté malgré elle, Tabatha Sands. Elle se demande comment elle a bien pu atterrir là, mais doit se rendre à l'évidence, elle ne rêve pas. D'ailleurs, peu importe, la nouvelle Tabatha a d'autres chats à fouetter. Que ce soit le quotidien avec ses deux colocataires, Gwendoline et Erika, son nouveau job de mascotte du quartier de Greenwich, ou encore un sexisme omniprésent. Sans compter un journaliste soviétique, un agent de la CIA persuadé d'avoir levé un grand fauve et une bande de terroristes nazis qui compte rayer la grosse pomme de la carte avec une bombe atomique. Le scénario règle cette question du décalage fantastique en deux pages. Il n'y a aucune explication à donner. Ce n'est pas les raisons qui sont importantes, mais c'est le fait. Cette femme a deux époques, connaît deux époques, ce qui permet sur un plan narratif de mettre en scène les deux modernités et leur décalage. On a ainsi les changements de mœurs, les changements de coutumes, les changements d'émancipation des femmes. 1959, c'est un sexisme récurrent, c'est des abus machistes très fréquents. Et il y a donc, à travers ce roman graphique, une écriture de la libération des femmes par le contour. Et on découvre ainsi le chemin parcouru par les réflexions de Tabatha Sands, qui réagit avec ces conditions de femmes de 2025. Ça donne des dialogues saisissants. Les deux auteurs choisissent de tirer plusieurs fils d'intrigue et dans leur démarche, ils rendent hommage aux comics américains et notamment aux Sunday Pages, qui sont ces planches dominicales qui étaient publiées dans la presse quotidienne d'information. Et on avait donc ces grandes pages que les lecteurs retrouvaient, lisaient souvent en premier, avant les articles d'information. Et on avait vraiment, avec ces deux présences, une reconnaissance de la bande dessinée qui a été beaucoup plus importante que celle qui a eu lieu, notamment en France. L'hommage aux comics se traduit aussi par des contraintes et cette reprise de ce fonctionnement avec une base de strip, donc des images de la même auteur du début à la fin de l'histoire. Et Frank Biancarelli et Lewis Trondheim se sont donnés comme base d'avoir un panoramique qui démarre chaque page. Un panoramique, c'est donc cette image qui va couvrir toute la largeur de la page et ça permet d'avoir un plan souvent très large et de donner le contexte avec toutes ces ambiances du récit. Il y a donc trois bandes d'images avec une base de gaufrier, trois cases identiques par bande, et puis la possibilité d'avoir deux cases qui vont en faire qu'une seule, et donc toujours sur cette base de ce gaufrier avec ses largeurs. Ça donne une régularité, une cohérence d'ensemble qui est tout à fait favorable à l'intensité de la lecture, puisqu'à chaque fois, à l'opposé, qu'il y a des mises en scène un peu alambiquées, eh bien le lecteur se retrouve à prendre des distances avec le récit. Franck Biancarelli va, dans sa démarche, prendre pleinement la dimension de cette contrainte avec un travail sur le cadrage pour que lorsqu'il y ait 9 cases identiques, eh bien, les changements de point de vue, les différences de perspective, les changements de regard, la valeur de plan, fassent qu'on ait une lecture qui soit toujours fluide et qui permette de donner toute l'intensité à la scène. Et c'est vraiment le cas. Il y a une précision dans la mise en scène, dans le cadrage, qui fait qu'on est constamment dans le récit. Et puis, il y a cette représentation de la ville sur laquelle Franck Biancarelli s'est particulièrement attaché à être dans une grande efficacité. Et ça démarre dès la couverture. Ça s'enchaîne avec le premier panoramique. On a une vue des toits de Greenwich Village avec ses réservoirs d'eau, avec ses escaliers métalliques extérieurs. C'est à chaque fois des détails qui vont donner cette précision et cette cohésion d'ensemble. On va être dans la ville avec donc très souvent des plans larges, des perspectives, des vues sur les immeubles, sur le bas des immeubles, leurs entrées, la présence d'hôtels. On est dans les rues, à un moment il y a un épicier qui reçoit une cargaison de pommes de terre et il y en a tellement qu'elles se répandent sur la chaussée. On sera dans les parcs et toujours cette même hauteur d'image. On va avoir après les lieux un peu plus précis, comme un passage dans une station-service. On sera dans le métro new-yorkais de 1959. Et puis, on sera aussi à l'intérieur avec cette même attention pour donner au lieu cette force et cette atmosphère de 1959. Dans des bars, dans un restaurant, il y a une scène de restaurant où l'image, c'est la valeur de deux cases. C'est un plan large. On voit le monde dans le restaurant, attablé, en train de discuter, de manger. Et les personnages sont vraiment de petite taille dans cette case, mais elle permet d'avoir l'ambiance du restaurant. On est avec les personnages dans ce lieu. Il y a même une scène qui se déroule au musée, qui est toujours une difficulté. Comment représenter le musée pour qu'on ait cette atmosphère, qu'on ait une représentation des œuvres qui ne soit pas facile ou tronquée. Et là aussi, Franck Biancarelli va vraiment prendre la précision nécessaire pour traduire cette ambiance de musée. Et à New York, c'est pas... C'est un mot important. La mise en couleur de Jérôme Maffre va pleinement utiliser les aplats noirs que Franck Biancarelli utilise pour donner une atmosphère supplémentaire à ses images. Il y a tout un travail sur la lumière qui va ainsi être modelé avec la mise en couleur. C'est du grand art, c'est vraiment un travail d'orfèvre, c'est millimétré, c'est un hommage rendu à ces comics américains et qui montre bien comment cette intensité du récit américaine peut pleinement profiter aussi à l'écriture franco-belge, à la façon d'approcher les récits. Et là, il y a un croisement qui est des plus féconds. Greenwich Village de Franck Biancarelli pour le dessin et les lettrages et Lewis Trondheim pour le scénario. Franck Biancarelli a également participé au scénario. Mise en couleur de Jérôme Maffre, les 104 pages de ce roman graphique sont au prix de 22 € et le livre a été publié en Belgique par les éditions du Lombard. Je crois que je l'ai déjà dit. Nous finissons en musique avec un morceau intitulé « For John Coltrane in Greenwich Village » et c'est signé Albert Heller. Thank you.